Culture Média.
9h-11h.
Thomas Hill.
C'est la deuxième partie de Culture Média qui commence. Merci d'être avec nous ce matin. Notre invitée est Delphine Horviller, rabbin, conteuse, pour un livre qui s'en prend à tous ceux qui veulent nous enfermer dans notre petite identité. Ça s'appelle « Il n'y a pas de hasard ». Et puis, les trois mousquetaires de Culture Média sont réunis autour de cette table.
En garde.
En garde. Bonjour Héloïse Goua.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Thomas.
Et salut Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Thomas.
Alors Jean-Luc, tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu vous intéresser à l'avenir, un petit peu de prospective.
Exactement, ouais. Thomas, car je suis un homme du futur, j'aime les nouvelles technologies, j'aime apprendre, tout simplement. Non, je plaisante, j'ai regardé Idées Voyantes sur EDF1, animé par la pétillante Isabelle. Alors, je vous explique le principe. Chaque jour, une voyante répond en direct à des gens qui se posent des questions. Par exemple, il y a 15 jours, il y a un garçon qui a appelé pour dire « Bonjour, je m'appelle Thomas. Est-il possible que dans un laps de temps assez court, je présente une émission parlant médias sur une radio bleue ?»
Il avait cette voix-là ?
Ah, c'était vous ? D'accord, je vous ai pas reconnu. Oui, oui, il y a beaucoup de gens désespérés qui appellent. Donc, il est voyant, s'il y a une tradition, il commence toujours le programme avec l'anniversaire d'une star. Et franchement, je sais pas si c'est un cadeau pour la star.
Je parlais de Brigitte Bardot.
Ah bah oui, bah forcément.
Alors évidemment, on va dire, elle a 82 ans, donc... son avenir est derrière elle, bien évidemment.
Oh.
Je pense qu'elle a dû être contente, Brigitte. Hein. Ah, oui. Le 30 septembre, c'était l'anniversaire de Marion Cotillard.
La jolie Marion Cotillard, alors elle est née le 30 septembre 1975. Donc aujourd'hui, bah, ça lui fait quand même 47 ans. Hein. Et quand même, hein. Alors qu'on,
ouais, c'est vrai qu'on
la voit toujours jeune. Hein. Ouais,
c'est
fou, elle va bientôt avoir 50 ans. Quoi.
Oh la violence.
Allez, un petit coup de pelle dans la tronche.
Marion Cotillard.
Cotillard. Honnêtement, ne souhaitez plus les anniversaires. Hein. Attaquez les directs, les questions voyance. Parce que tu peux appeler, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit si tu passes à l'antenne.
Comment vous appelez-vous?
France, le 14 avril 66.
Voilà, enfin, je vous connais, France.
Quand l'animatrice connaît ton nom, c'est déjà bien, mais quand en plus elle connaît ta date de naissance par cœur,
aïe, aïe, aïe.
C'est vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui appellent. Hein. Ou sinon, elle est hypermnésique. Prenez-en de la graine, Thomas. Ah, vous qui m'appelez encore Jean-Yves en dehors de l'émission.
Je suis impressionné.
Donc, France a une question.
Bonjour Gaïa, alors moi, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale constructive.
Oui, une rencontre sentimentale constructive. France, elle n'est pas là pour se faire des suçons dans les couloirs. Et d'un seul coup, Gaïa va avoir un flash.
48 ans, c'est quoi, France? Il y a eu une histoire?
Non, j'ai 56 ans.
Non, je vous demandais ce qui s'était passé à vos 48 ans sur un plan affectif, justement.
Je n'en ai aucun souvenir.
Dommage, ça s'est passé il y a 8 ans, mais blackout.
C'est bête. Hein.
Mais Gaïa ne va pas lâcher le morceau et va avoir un deuxième flash.
Et c'est drôle parce qu'on m'envoie le prénom Franck dans ma tête, alors que vous, c'est France.
J'ai un de mes frères qui s'appelle Franck.
Oui, on peut considérer que se taper son frère, c'est une rencontre sentimentale constructive. Le jeudi, le voyant, c'est Michael.
Mélissa, votre date de naissance, ma chère Mélissa?
Le 4 mars 1969.
Alors vous aurez souhaité savoir si quoi?
Quand est-ce que
vous déménagez?
Oui, parce qu'on peut aussi appeler pour les déménagements, les heures de livraison Uber Eats ou les dates de sortie Netflix. Hein.
C'est hyper pratique.
Donc Michael va réfléchir à cette question cruciale quand d'un seul coup, il va avoir un doute.
Vous ne nous avez pas appelé la semaine dernière, c'est pas vous?
Si.
C'est bien ça, d'accord. Je vous avais répondu quoi? Je me souviens plus.
Vous me connaissez, j'ai voulu vérifier qu'elle avait vraiment fait ça, donc j'ai regardé l'émission de la semaine précédente.
Et j'aurais voulu si mon dossier allait passer en commission et si j'allais déménager à la fin de l'année là.
Oui, c'est ça qui est bien. Si t'es pas content de la réponse, tu peux rappeler le même voyant la semaine suivante pour lui reposer la question. À un moment, il va t'arranger le gars.
Bah oui.
Le lundi, la voyante, c'est Naëlle.
Mélissa, votre date de naissance s'il vous plaît, Mélissa.
Le 4 mars 1969. Et j'aurais voulu savoir quand est-ce que ça sera mon déménagement.
Je comprends mieux pourquoi elle connaît les dates de naissance de tout le monde, Isabelle. Hein. Mais Mélissa a bien fait d'insister parce que Naëlle va lui apporter une réponse plus réconfortante. Est-ce que ça va suffire pour l'apaiser?
En tout cas, ça a l'air d'être assez récent, l'appartement que l'on me montre. Tout est très clair, en fait.
D'accord. Et je ne serai pas loin pour aller faire mes courses.
Voilà, maintenant elle veut faire ses courses. Quand t'es voyant sur IDF1, t'as intérêt à avoir un tarot Google Maps quand même. Hein. J'aurais pu vous laisser là-dessus, mais dans la même émission, une nouvelle m'a bouleversé.
Je m'appelle France, je suis née le 14 avril 66.
Comment ça va, France? Ça fait longtemps.
J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale constructive.
Oui, le coup dur, a priori, France a été largué par son frère.
Quelle histoire. Merci Jean-Yves. À demain. Et Jean-Luc Lemoyne, on vous retrouve bien sûr sur scène. C'est au République, toujours à Paris. Les vendredis, ça démarre là.
Ouais, ça démarre le 8 et le 16 jusqu'à Salit de Béarn aussi.
Très bien. Et donc, le 8 octobre, samedi soir, Jean-Luc Lemoyne au République à Paris. Héloïse Gouard, on parle d'une série un peu olé olé, si j'ai bien compris, dans un instant.
Eh oui, on va parler de sexe aujourd'hui avec une comédie anglaise complètement dingue autour d'une jeune femme qui ne pense qu'à ça.
Alors, Stéphanie Loire, est-ce que votre programme est tout aussi caliente?
Olé olé, non, je dirais pas. C'est une rencontre entre le cinéma et la musique avec les compositions de Philippe Sard et puis le tout dernier Michel Polnareff. Ça peut être olé olé pour certains.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis dans un instant, on sera avec Delphine Horviller pour nous parler de son dernier livre passionnant, Il n'y a pas de hasard. Mais d'abord, musique avec les Dutronc, père et fils, et les Cactus sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Thomas Hill.
Rabbin, mais aussi conteuse, directrice de rédaction, mère de famille. Notre invitée a aussi été étudiante en médecine, mannequin et journaliste pour la télé. Bref, elle est beaucoup de choses à la fois et elle plaide pour qu'on accepte tous de ne pas s'enfermer dans une seule identité. Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin et surtout merci pour ce livre lumineux que je présente. Il n'y a pas de hasard, c'est chez Grasset, un livre qui a pour sous-titre Monologue contre l'identité, parce que vous cherchez avec ce texte à repousser tous ceux qui veulent nous enfermer en fait dans une seule identité. C'est ça le message central de votre livre?
Oui, on est entouré ces dernières années, il faudrait être un peu sourd ou aveugle pour pas le percevoir, de discours d'obsession identitaire qui viennent de mondes religieux, de mondes nationalistes, d'idéologies, qui voudraient résumer qui on est, un petit bout de nous-mêmes, à notre naissance, notre ethnie, notre religion. Et je pensais qu'il fallait introduire un peu plus de complexité là-dedans.
C'est ça. Et alors, pour passer votre coup de gueule, vous décidez de vous planquer derrière le personnage d'Abraham Ajar, fils fictif d'Émile Ajar. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il faut expliquer qu'Émile Ajar était lui-même une fiction, créée par Romain Gary. C'est compliqué cette histoire.
C'est la fiction d'une fiction. C'est une mise en abîme. Ouais, en fait, moi j'ai une passion depuis des années pour Gary, qui lui-même écrivait sous pseudo, parce que Gary c'était pas son nom de naissance, Romain Gary. Et il a créé à un moment donné, parmi ses nombreux pseudos, il y en a eu un très célèbre, Émile Ajar, grâce auquel il a eu un deuxième prix Nobel, un deuxième prix Goncourt Goncourt de littérature, ce qui a priori est impossible. Donc une fiction littéraire, un pseudo qui a bien réussi et qui a été révélé qu'après la mort de Romain Gary. J'ai toujours été fascinée par cette idée qu'il avait réussi tellement de fois dans sa vie à se réinventer, à dire « je ne suis pas celui que vous pensez que je suis ». Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'imaginer que ce pseudo, cette invention, aurait eu un fils. Parce qu'en filigrane, la question qui se pose, qui est une question pour chacun d'entre nous, c'est est-ce qu'on est les enfants de nos parents, ou est-ce qu'on est les enfants de nos fictions, des récits qu'on a fait pour nous, de nos bibliothèques, des histoires qu'on a racontées? Moi, je me reconnais assez dans cette définition.
Je suis l'enfant de l'entourloupe littéraire majeure du XXe siècle. J'ai été conçu par le plus grand caméléon de tous les temps. C'est comme ça que vous présentez ce Abraham Ajar. Et vous l'avez inventé aussi pour vous permettre peut-être d'être plus libre, d'aller même parfois plus loin que ce que vous pensez ou de ce que vous osez dire. Je ne m'attendais pas, par exemple, à lire sous la plume d'un rabbin « Merde à la croyance !» Merde à l'identité, merde à tout ce qui te fait croire que tu n'es rien d'autre que ce que tu es. C'était ça, l'idée d'avoir ce personnage aussi, c'est pour aller plus loin.
Oui, ce personnage, il me permet de construire sur un petit peu de mes idées, mais bien sûr en les rendant un peu too much, exacerbés, exaspérés. Il est beaucoup plus exaspéré et peut-être exaspérant. En tout cas, j'espère que je ne le suis. C'est ce que permet de faire la fiction, d'aller un peu plus loin. Et puis, c'est vrai que j'avais besoin de cet exercice un peu de libération, d'émancipation dans mon écriture suite à mon dernier livre, qui était assez lourd, pesant. J'avais écrit un livre, donc sur la mort, sur le deuil, sur la fonction rabbinique, sur comment on accompagne les mourants et les familles endeuillées. Ce livre, c'est vraiment comme un pas de côté pour moi qui me permettait d'écrire autrement, de pouvoir me libérer aussi, aller un peu plus loin, peut-être un peu trop loin.
Ouais, et c'est ce mot d'identité, ce nom vraiment dégoûtant, cette saloperie, comme vous dites, qui est la cible centrale. Alors tout le monde en prend pour son grade dans votre livre. Il y a bien sûr les fondamentalistes religieux et les nostalgiques identitaires que vous mettez un peu dans un même sac, ceux qui sont en recherche d'une d'une pureté qui n'existe pas. Mais vous dénoncez aussi ce que vous appelez les nouvelles obsessions identitaires. Qu'est-ce que vous visez exactement ?
Bah, on voit bien aujourd'hui qu'on est pris dans une forme de tenaille qui bien sûr n'a pas la même idéologie. Il y a d'un côté des gens qui vous disent « nous ne sommes que notre naissance, nous ne sommes que notre origine, que notre couleur de peau, notre ethnie, l'histoire de nos parents, le lieu où on est né, nos ancrages ». Et puis il y a d'autres gens qui nous disent « nous ne sommes que ce que nous inventons de nous-mêmes, que nous créons, voilà ce qu'on décide d'être ». Et alors c'est formidable de pouvoir devenir et se réinventer, mais on ne peut pas complètement aller contre le réel, en fait, dans la vie, ce qu'on essaie de faire, plus ou moins, difficilement, comme on peut, c'est de faire avec ce qui nous a été donné. Personne n'est condamné par sa naissance. Bien sûr, on fait tous quelque chose de notre naissance. On l'emmène quelque part ailleurs, mais il faut bien faire avec. Et je trouve qu'aujourd'hui, souvent, il y a une faille de dette à l'égard du monde qui nous a donné naissance. C'est ce qui donne lieu à tellement de conflits intergénérationnels. Aujourd'hui, vous voyez, les gens, on a l'impression que les jeunes et les vieux, pour caricaturer, ou les anciens peuvent plus se parler, qui se supportent plus, qui se comprennent plus. Parce qu'en fait, il y a comme une faille de dette. Il n'y a aucun problème à critiquer nos anciens ou le monde qu'on nous a légué. Mais il faut quand même savoir ce qu'on lui doit.
On est tous des additionnés.
Ouais, il y a cette phrase magnifique de Gary qui dit dans un de ses livres « J'ai désespérément essayé de me soustraire, mais il n'y a rien à faire, on est tous des additionnés. Ce serait super de pouvoir se soustraire, mais en réalité, il faut composer avec, faire avec ce qui nous a été donné. »
Et alors, on va voir justement dans un instant comment sortir de cette tenaille identitaire politico-religieuse. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Thomas Hill.
Culture Média continue avec notre invité que je n'ose plus qualifier maintenant de peur d'être trop réducteur. Alors je vais dire tout simplement Delphine Horviller est avec nous. Et elle nous présente son monologue contre l'identité, il n'y a pas de hasard. Je vous présente Stéphanie Loire.
Bonjour Delphine Horviller.
Enchantée. Et pour commencer, Stéphanie, vous convoquez la musique et le cinéma avec la première anthologie des musiques de films signée par le compositeur Philippe Sard.
Tout à fait, je vous présente un coffret qui retrace 50 ans de cinéma et qui contient pas moins de 101, non pas dalmatiens, mais chefs-d'œuvre remasterisés du compositeur phare du cinéma français, Philippe Sard. Alors, à 18 ans, Philippe Sard, lui, il rencontre Claude Sautet et il lui propose de signer la musique de son film « Les choses de la vie ». Qui réunit à l'écran les immenses Romy Schneider et Michel Piccoli, on est en 1970. Un récit qui est porté par ces notes délicates là, qui sont en train de vous chatouiller les oreilles, qui nous embarquent sur les sentiers de notre propre nostalgie.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus.
Romy Schneider qui chante la chanson d'Hélène avec cet accent divin.
C'est beau.
La force de Philippe Sard, c'est d'abord d'être un homme de cinéma avant d'être un homme de musique. C'est un homme qui, dès le plus jeune âge, va collectionner des bobines de vieux films, regarder des vieux films français. Et c'est cette appétence pour le 7e art qui va lui faire envisager son statut comme celui d'un scénariste musical, d'un artiste qui entre dans la tête du cinéaste pour lui écrire sa musique, d'où ses collaborations très suivies avec des cinéastes comme Sautet, Téchiné, Georges Lautner ou encore Marco Ferreri, pour qui il compose la bande-son de La Grande Bouffe avec Piccoli, une fois de plus, Mastroianni, Tognazzi, Noiret, en salle en 1973. J'ai faim, moi, pas vous.
Ouais, ça y est. 10h24, c'est bien.
Ça y est, j'ai la dalle. La sélection musicale de ce coffret a été supervisée par Philippe Sard lui-même. Georges Lautner disait à son sujet, Philippe Sard, avant même la composition, c'est d'abord l'imagination. Une imagination qui se déploie, entre autres, une fois de plus, dans la bande originale du film L'Ours de Jean-Jacques Hano, vous vous souvenez ?
Bah oui.
C'est beau, hein, ça marche.
Oh, j'ai pleuré devant ça.
Tout de suite, alors je ne veux spoiler personne, je ne vous dis pas si l'ours meurt à la fin dans ce film.
Ah, c'est terrible. La première anthologie de musique de film signée par Philippe Sard, dont 50 ans de cinéma, 6 CD, 45 euros.
Voilà.
Ça va, c'est raisonnable.
C'est raisonnable.
Allez, une nouveauté maintenant, il est question de Michel Polnareff.
Michel Polnareff va publier le 18 novembre prochain un album de reprise de ses plus grands tubes, sobrement intitulé Polnareff chante Polnareff, dont il vient dévoiler un premier titre, une version piano-voix de Lettres à France, sans réarrangement majeur, mais toujours aussi sublime.
Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas.
Je sais pas ce que ça donne chez vous en voiture, mais nous on a tous un spleen énorme, mais on est souriant. Et Delphine Horviller adore.
Oui, ça me met dans un état de nostalgie.
Absolument. Et ça sonne comme une lettre d'amour, qui en est une, mais qui est aussi une lettre adressée avant tout à la France. Mais quand on a le cœur brisé, on se dit ouais, ça marche.
Il avait fait son retour, Polnareff.
Oui, il avait fait un grand retour il y a 4 ans avec l'album Enfin. Après 30 ans d'absence, on l'avait attendu pas mal de temps.
Ça vous parle, Polnareff?
Oui, j'adore cette chanson et j'adore tout ce qu'on a entendu, à vrai dire.
Vous vois noter plein de trucs là.
Oui,
parce
que je me suis souvenue en écoutant. D'abord, je veux dire, je trouve que c'est un métier extraordinaire de composer des musiques de films.
C'est sublime.
Je trouve que c'est une autre écriture. Voilà, de mêler le son, l'image, l'histoire, le narratif. Et puis je pensais à la nostalgie et je pensais, il y a un terme que beaucoup de gens connaissent pas qui est la solastalgie. La solastalgie, c'est la nostalgie d'un temps qu'on n'a pas connu. Et je trouve que voilà, quand on écoute des chants des années 70, bon, pas encore né, mais il y a quelque chose qui nous renvoie à un temps qu'on n'a pas connu, mais dont on est incroyablement nostalgique.
Très beau ce mot, solastalgie.
Solastalgie, on retient pour aujourd'hui.
Ah ouais,
on a appris un truc aujourd'hui. Elle a chanté aussi d'ailleurs, Delphine Horviller, Stéphanie.
Vous aimez la musique, vous aimez les chanteurs français, notamment Jean-Jacques Goldman, et vous savez chanter. Vous aimez Anne Sylvestre notamment, vous avez repris Les gens qui doutent en hébreu. Ouais. C'était une pépite, on écoute.
מי שמתלבט, מי שמטיל ספק במה שהאמין. אוהבת מי שאומר ואת אמירותיו סותר ולא מחפש תירוצים. אני אוהבת מי שרועד לבד ומפחד לשפוט אחרים. מי שנמצא כל חייו, חצי עומד בנעליו, חצי נופל מהקווים.
Vous chantez juste sur des paroles très justes d'Anne Sylvestre. Vous avez une empathie particulière pour ces gens qui doutent.
Oui, ça me parle beaucoup. Et puis j'adorais Anne Sylvestre, c'est vrai. Peu de temps sans disparition, quelqu'un me demandait qui t'adorerais rencontrer. Et j'avais dit j'adorerais rencontrer Anne Sylvestre. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Au moment de sa disparition, j'ai eu très envie d'enregistrer cette chanson en hébreu. Voilà, je me suis dit que c'était une leçon pour tout le monde, à travers le monde. Partout, il y a des conflits. D'essayer d'entendre cette chanson de l'importance de pouvoir douter. J'ai enregistré ça dans le salon d'une amie, Keren Ann, que vous connaissez sans doute. On a enregistré à toute vitesse cette chanson de façon un peu brouillonne, mais j'étais heureuse de pouvoir lui rendre hommage comme ça.
Très beau.
Encore un talent de plus et une casquette de plus pour vous, Delphine Horviller. On reparle de votre livre Il n'y a pas de hasard tout de suite sur Europe 1. On revient.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Joe Dassin, et si tu n'existais pas, Delphine Horviller, dans votre monologue contre l'identité, vous citez cette chanson en particulier. Pourquoi elle? Expliquez-nous.
D'abord, je suis obsédée par la variété, c'est vraiment parler de musique. Mais très souvent, quand j'écris, même quand j'écris des sermons dans mon travail de rabbin à la synagogue, je vais souvent chercher du côté de la variété parce que je trouve qu'il y a des pépites, des profondeurs dans la variété. Donc j'aime beaucoup Joe Dassin et je trouvais que c'était un petit clin d'œil, cette chanson, à tous ces gens qui sont tellement persuadés d'exister profondément, de savoir qui ils sont. Voilà le personnage dans le livre et d'ailleurs à la scène, puisque ce livre est interprété maintenant à la scène, chante « Et si tu n'existais pas », voilà, pour nous le rappeler, peut-être le rappeler à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on existe vraiment? Est-ce qu'on peut être sûr de tout ce qu'on affirme qu'on est?
Et alors, face à ce que vous appelez donc dans votre livre une tenaille identitaire, vous cherchez à remettre, alors on ne va pas dire l'église au milieu du village, ni la synagogue d'ailleurs, ça ne marcherait pas non plus, mais vous cherchez, disons, un point d'équilibre, on pourrait dire ça. Et pour ça, vous faites appel à Romain Gary, qui a eu l'audace de ne pas se laisser définir par son nom ou par sa naissance. Il est né dans l'Empire russe, son nom était Roman Katsev, et il a multiplié les identités, les pseudos, tout au long de sa vie, et c'est ça qui vous a vraiment inspiré pour ce livre.
Ouais, il n'arrêtait pas de se réinventer. Il a été, je ne sais pas, aviateur, fils à maman quand même. Oui. Il a une personnage de mère extraordinaire dont il parle dans La Promesse de l'Aube. Il a été réalisateur, ambassadeur. Enfin voilà. Donc il n'arrêtait pas de dire je peux recommencer. Mmh. Il y a quelque chose en moi qui n'a pas encore dit son dernier mot. Jusqu'au moment où il décide, bien sûr, en 1980, de mettre fin à ses jours. Alors, loin de moi l'idée d'interpréter le suicide de Gary, mais on a l'impression qu'il y a dans cette fin qu'il choisit une façon de dire « je n'arrive plus à me réinventer et donc il faut que ça s'arrête ». Parce que lui, il était très friand voilà, de ses recommencements en permanence, qui est un exercice très, très dangereux. L'image que Gary utilise, c'est celui du caméléon. À un moment donné, il dit « on pose un caméléon sur un tissu rouge, il devient rouge ». On le pose sur un tissu bleu, il devient bleu. Mais si on le pose sur un plaid écossais, il va exploser. Ouais. Et en fait, toute sa vie, il s'est posé sur des plaids écossais comme caméléon. Alors lui, il est devenu écrivain. Mais finalement, c'est un exercice dangereux de se dire qu'on va changer de couleur.
Mais alors là où j'ai eu du mal à vous suivre, c'est que vous écrivez juste après ce refus de Gary de se laisser définir par une identité ou une seule définition de soi a beaucoup à voir, à mon sens, avec sa judéité. Sa défiance à l'égard de l'identité fait de lui un auteur très juif, dites-vous. Alors, moi, j'y ai vu une contradiction avec tout ce que vous dites avant. Pourquoi le renvoyer à ses origines juives ?
Parce que je crois qu'il y a une particularité dans l'identité juive, c'est qu'elle ne se laisse pas définir. En fait, si vous demandez à quelqu'un, une personne juive, qu'est-ce qui fait de lui son identité juive, en fait, personne n'est capable de répondre à cette question. Il y a des gens qui vous diront « je suis juif parce que mes parents sont juifs, mes grands-parents sont juifs, mon histoire est juive ». Parce que je pratique quelque chose, parce que je crois en quelque chose, parce que mes enfants sont juifs. Enfin, vous voyez, en fait, rien ne finit de dire ce que c'est cette identité. Elle ne se laisse pas attraper, elle ne se laisse pas contenir. Et donc, je trouve qu'il y a là-dedans une espèce de recette identitaire, anti-identitaire, qui est intéressante à explorer pour tout le monde. Aujourd'hui, qu'on soit juif ou pas, en fait, il y a une espèce de contre-usage du mot identité que je trouve intéressant. Et puis, il y a chez Gary quelque chose... à mon sens, de très juif, dans le sens où il n'arrête pas de tenter de survivre. Vous savez, l'histoire juive, c'est une histoire de survie, toujours. Il y a eu beaucoup de drames, de tragédies dans l'histoire juive, et toujours, on a essayé de s'en relever, de survivre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de rester en vie, de lutter contre la mort, mais aussi survie en deux mots, c'est-à-dire d'essayer de faire que nos vies soient un peu plus grandes que nos vies. Qu'elles en contiennent d'autres. Et je trouve qu'il y a ça très fortement chez Gary. Et j'adore l'idée qu'il aurait détesté tout ce que je viens de dire. Que lui aurait détesté qu'on dise de lui qu'il était un auteur juif. Parce qu'il n'aurait pas supporté qu'on le réduise à ça. Oui. Donc j'aime l'idée qu'on aurait pu se disputer à ce sujet si seulement on s'était rencontrés.
En fait, ce que vous dites, c'est qu'on a tous une histoire, un héritage, et qu'il ne faut juste pas s'enfermer dedans. Je suis pour polluer toutes les identités, c'est ce que dit votre personnage. Et puis alors, il y a aussi cette idée qu'on vit tous dans notre petit coin, sans même s'en rendre compte, et que les réseaux sociaux, à leur manière, y contribuent. Quand tu écris une story sur Insta, dites-vous, tu es tout de suite liké par ta copie conforme, et tu t'adresses à ton clone, à qui tu ne vas rien apprendre, parce qu'il le sait déjà. La critique, elle est très, très juste, évidemment, mais quelle arme on peut avoir face à ça ? Quelle solution vous pourriez nous donner ?
C'est compliqué parce que les réseaux sociaux, évidemment, accentuent ce phénomène. On ne parle plus qu'à des gens qui nous ressemblent, on est connecté à des gens qui sont d'accord avec nous. Parfois, pour critiquer quelqu'un qui ne l'est pas, qu'on prend à partie, mais on cherche surtout à avoir l'approbation de quelqu'un qui nous ressemble et on consolide ces bulles identitaires-là. À mon avis, la seule solution contre ça, c'est de se rappeler en permanence que dans cet entre-soi, on n'est jamais seul chez soi. C'est-à-dire que pour moi, la seule solution, c'est de se rappeler, comme vous l'avez fait tout à l'heure, qu'aucun de nous ne peut se décrire de façon monolithique. On n'est jamais que quelque chose. Mmh. Moi, je ne suis pas que juive ou que, je ne sais pas, que parisienne
que
ou que mère de famille ou que chanteuse, heureusement. Mais je pense que quand on est capable de se raconter en disant « je suis ceci », etc. « Je suis ceci », trois petits points, on complexifie le débat. Et là, parce qu'on entend plusieurs voix en soi, dans sa tête ou dans son discours, les choses redeviennent intéressantes et il y a un peu plus d'oxygène.
Ça s'appelle « Il n'y a pas de hasard » et c'est chez Grasset ce monologue contre l'identité. Dans un instant, notre deuxième indispensable, Héloïse Goy, viendra nous parler série avec une comédie anglaise très osée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous verrez, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Thomas Hill.
Culture Média continue jusqu'à 11h avec notre invité Delphine Horviller et Héloïse Goy qui est là pour nous parler série. Alors aujourd'hui, vous m'avez dit que vous aviez un petit peu hésité à parler de cette comédie anglaise devant Delphine Horviller. Pourquoi ?
Oui, parce qu'on va parler de sexe aujourd'hui, de beaucoup, oh bah, de beaucoup de sexe.
Ça fait partie de la vie. Hein.
Ça fait partie de la vie, c'est pour ça que je me lance. Il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. La série s'appelle Pure ou Pure avec l'accent britannique. Et elle vous dit déjà peut-être quelque chose parce qu'elle date de 2019, mais elle débarque en France gratuitement sur Arte.tv. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ne l'ont jamais vue, mais aussi pour ceux qui ont envie de la revoir, parce que c'est le genre de série qu'on peut regarder à l'infini. Normalement, rien qu'avec le pitch qui est adapté du roman de Rose Cartwright, vous devriez avoir envie d'y aller. Marnie est une jeune femme de 24 ans qui vit encore chez ses parents en Écosse. Elle est jolie, elle est drôle, sympa, mais un problème de taille a tendance à lui gâcher la vie.
À 14 ans, j'ai commencé à avoir des pensées sexuelles en permanence. Pas des trucs sexy, des trucs tordus qui vous envoient en prison. Et 3723 jours plus tard, ça continue.
Vous voyez le film Sixième Sens où le petit garçon voit des morts partout Et bah c'est pareil pour Marnie, sauf qu'elle, elle voit des gens tout nus tout le temps. C'est-à-dire que chaque décolleté, chaque regard dans la rue, chaque jean moulant ou même chaque couple qui se balade main dans la main est la parfaite occasion pour son drôle de cerveau de créer des scénarios très, très coquins. Et mine de rien, c'est assez handicapant au quotidien de se faire envahir par des images de sa meilleure amie en pleine action avec son père, par exemple. Aïe. Notamment lorsqu'il s'agit de faire un discours devant toute sa famille et ses amis.
Je fais partie de ceux qui retournent chez leurs parents après la fac en attendant de trouver un vrai boulot et qui n'ont toujours rien fait 13 mois plus tard. Merde. Désolée. Je transpire. C'est moi ou il fait chaud ? Il fait chaud, non ?
Là, vous entendez le malaise dans la voix de Marnie, mais vous doutez bien que tout se passe surtout dans les images érotiques qui arrivent en flash à l'écran. En gros, elle imagine tous les gens devant elle en pleine orgie sexuelle. C'est pas fastoche à gérer pour son pauvre petit cerveau. Alors après cette crise en public, Marnie est morte de honte. Elle prend la poudre d'escampette et part à Londres sans rien expliquer à son entourage. Là-bas, elle essaie de se prendre en main en parlant de son problème à un groupe d'addicts anonymes. Mais c'est l'occasion pour elle de réaliser qu'elle n'est pas vraiment une sex addict parce qu'elle n'est en fait presque jamais excitée par ces visions qui l'envahissent. Et c'est déjà ça. C'est finalement grâce à des lectures et à un ami qu'elle parvient enfin à mettre des mots sur son trouble.
Trouble obsessionnel compulsif.
C'est pas vrai. Charlie, c'est un toc. J'ai un toc. Je suis cinglée et il y a des milliers d'autres tarés comme moi. C'est pas moi, c'est mon toc. C'est pas moi, c'est mon toc. C'est pas moi, c'est mon toc. C'est pas moi, c'est mon toc.
Vous l'entendez, hein, ce diagnostic permet à Marnie de calmer ses angoisses et de faire disparaître au moins le temps de quelques minutes un peu ses visions. Alors pour info, ce trouble psychiatrique existe réellement.
Ah,
ça s'appelle des troubles obsessionnels compulsifs d'intrusion sexuelle et ça ne doit pas être marrant à vivre. Pure ou Pure, c'est la série anglaise par excellence. De toute façon, il n'y a que les Anglais pour faire des séries aussi dingues. Et derrière une héroïne géniale et attachante, le récit nous parle aussi des doutes d'une jeune femme qui a du mal à devenir adulte et qui commence une introspection devant nos yeux. C'est donc une jolie série d'apprentissage. Pure m'a fait penser aussi à une autre série britannique culte qui est certainement l'une de mes préférées sur Terre. C'est Fleabag de Phoebe Waller-Bridge.
Ah ouais.
Qui avait aussi été adapté en France avec Camille Cotin, ça s'appelait Mouche. Oui. Et ben, comme dans Fleabag, les dialogues sont fins, c'est très bien écrit, c'est juste, c'est drôle, mais aussi très tendre, je vous le disais, ça se regarde sans fin.
Vous nous rappelez où est-ce qu'on peut voir cette série, du coup, c'est sur Arte, c'est ça ?
C'est ça, arte.tv, les 6 épisodes sont disponibles jusqu'au 31 janvier prochain et c'est gratuit.
Est-ce que ça vous donne envie, Delphine Horviller ?
Ouais, et puis je me dis souvent que c'est incroyable comme les séries nous aident à penser en ce moment sur tellement de sujets, qu'il y a des séries qui ont quelque chose d'un peu prophétique même, ou alors qui nous font grandir, qui nous font réfléchir. C'est phénoménal.
Vous en regardez des séries ?
Oui, moi j'en regarde assez souvent.
Fleabag, vous l'avez vu ou pas ?
Ouais, j'ai vu Fleabag.
Exceptionnel,
exceptionnel. J'ai vraiment très puissant. Voilà.
Est-ce que vous en avez une autre à nous recommander ou pas ? Est-ce que vous en avez une en tête ?
En ce moment, j'en regarde une. Je ne sais pas si je la recommanderais, mais je suis complètement happée par cette série qui s'appelle Manifest. C'est une histoire d'avion détourné. Et en fait, je me demande si ce n'est pas une façon de fuir tout ce que j'ai à faire. Vous savez, parfois, on lance la la série pour éviter de d'écrire des sermons, d'écrire des discours, de faire voilà. En tout cas, ça remplit plein de fonctions la série.
Bon, allez, on va continuer à reparler de ce petit livre hein, de 80 et quelques pages, mais qui contient de grandes idées. Ça s'appelle Il n'y a pas de hasard. On en reparle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Thomas Hill. Je marche seul dans les rues qui se tordent et la nuit me pardonne. Je marche seul.
On va dire pour ce petit Goldman ce matin avec Je marche seul pour faire plaisir à Delphine Horviller, notre invitée. Parce que j'ai appris que ça vous arrive d'utiliser Goldman aussi dans vos sermons. Alors, qu'est-ce que vous racontez sur Goldman?
Ben voilà, cette chanson, justement, ouais. Je l'ai utilisée un jour dans un sermon. Bien sûr, je ne précise pas en général que j'utilise du Goldman. Ceux qui s'en rendent compte, s'en rendent compte. Et oui, j'ai commencé un discours en disant « Dieu marche seul, sans témoin, sans personne. » Et donc, la certains ont souri, d'autres absolument pas. Voilà, on peut l'utiliser en plein de circonstances.
Il y en a une autre que vous pouvez utiliser, c'est celle-ci aussi. C'est la troisième, c'est puisque tu pars, là-bas, je marche seul.
Vous avez remarqué.
Ce qui vous plaît, c'est cette idée de départ.
Mais oui, mais apparemment, elle plaît beaucoup à Jean-Jacques Goldman parce qu'il a un nombre de chansons, En passant, On ira. Ouais. En fait, il y a toujours du mouvement dans ses chansons. Il n'arrête pas de dire, un peu comme le personnage du livre, effectivement, d'Abraham Ajar, qu'on est en chemin. On n'a jamais fini de dire qui on est et qu'il faut mieux aller voir là-bas si on n'y est pas.
Toujours être en chemin, c'est peut-être la manière de lutter efficacement contre l'identité. Dites-vous, il faudrait pouvoir sortir de la binarité et du soit l'un, soit l'autre. Mais vous dites aussi que c'est un défi insurmontable. Et ça, j'adore ce passage. La plupart des gens qui te disent qu'il est temps d'en finir avec les catégories et de ne plus être binaire, ils précisent généralement qu'ils ne le sont pas eux-mêmes, contrairement à leurs interlocuteurs. Et du coup, il n'y a pas plus binaire qu'un mec qui te dit qu'il ne l'est pas.
Oui, c'est tout le paradoxe. Alors bien sûr, entendons-nous bien, encore une fois, le personnage exagère. Je comprends toutes ces démarches et toutes ces réflexions à l'heure actuelle. Je trouve que c'est intéressant de penser aujourd'hui avec la jeune génération, les questions du genre, de la complexité des genres. Mais il faut aussi pointer un peu, parfois, justement, les simplifications auxquelles ça amène et les choses un peu caricatural qu'on est amené finalement à dire quand on suggère qu'on va changer le monde.
Ouais. L'acteur Tom Hanks, par exemple, qui dit qu'aujourd'hui, il ne jouerait plus dans le film Philadelphia pour laisser la place à un acteur homosexuel, ça vous attriste, par exemple?
Oui, parce que ça me semble être quand même une folie. C'est toute la problématique aujourd'hui, ô combien légitime, de l'appropriation culturelle. Vous connaissez cette problématique, l'idée qu'il faut être quelque chose pour pouvoir parler au nom de ce quelque chose ou ce quelqu'un. En fait, ça part d'une idée intéressante et même importante que pendant longtemps, on n'a pas entendu certaines personnes, on ne leur a pas laissé de place, on n'a pas entendu leur voix et qu'aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait des gens qui n'ont pas parlé dans l'histoire, qui peuvent raconter et témoigner ce qui leur est arrivé directement. Mais ça ne peut pas déboucher sur une forme de censure où tout à coup, dans le monde de demain, il faudrait être noir pour avoir un héros noir dans un roman, il faudrait être juif pour parler d'antisémitisme, il faudrait être gay pour jouer le rôle d'un homosexuel. Ça n'a aucun sens. En fait, si on n'est plus du tout capable de se mettre dans la peau d'un autre et d'avoir dans notre vie de l'empathie, en fait, c'est notre civilisation qui disparaît. La possibilité d'exercer votre métier, le mien, celui d'enseignant, de psychanalyste, tous ces gens qui à un moment donné se glissent dans la peau d'un autre pour le comprendre, ne pourront plus le faire. Et c'est attristant et incroyablement appauvrissant.
Vous racontez aussi l'histoire vraie hein, qui s'est passée en 2018 d'un Néerlandais de 69 ans qui s'est dit victime de discrimination sur le marché de l'emploi et en amour à cause de son âge. Et donc il demande à la justice de le rajeunir de 2 décennies. C'est incroyable cette histoire.
Oui, j'avais halluciné en découvrant cet article réel, véridique. Voilà, il avait effectivement fait un procès ou en tout cas tenté de changer son âge en disant écoutez, de nos jours, il y a bien des gens qui changent de sexe. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer mon âge dans mes papiers d'identité. Et je trouve que voilà, ça fait rêver. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais c'est extraordinaire ce délire-là. Il nous invite tous à réfléchir finalement. Ouais. Qui en est vraiment? Quel âge vous auriez-vous?
Et puis ce que vous nous dites aussi, c'est que rien n'est purement génétique. Et pour ça, vous prenez l'exemple d'une expérience faite sur des souris à qui on envoyait une décharge dès qu'elles mangeaient de l'ail. Et alors, racontez-nous ce qui s'est passé.
Oui, c'est l'expérience de ce qu'on appelle l'épigénétique qui cherche à démontrer que tout n'est pas dans le génome. C'est des petites souris à qui on balançait un petit courju au moment où on leur faisait renifler de l'ail. Et on s'est rendu compte que les descendants de ces souris, qui n'étaient pas au courant de cette histoire, qu'on avait même retiré dès leur naissance à leur mère ou à leurs parents, ont développé mystérieusement une aversion à l'ail sous toutes ses formes. Ce qui suggère que, bien sûr, ce n'était pas dans leur génome, ce n'était pas dans leur ADN de détester l'ail. Mais il y a un élément de l'histoire de leurs parents qui leur avait été mystérieusement transmis. On appelle ça l'épigénétique, mais cette petite expérience, elle nous invite à réfléchir philosophiquement à tout ce dont on hérite, nous aussi, de l'histoire de nos parents. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose à nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, et que sans le savoir, on en est porteur. C'est pas dans nos gènes, mais notre corps en a comme une petite mémoire.
Ce qui prouve qu'on ne peut pas s'inventer ex nihilo. C'est ce que vous nous expliquez.
Ça n'existe pas, s'inventer ex nihilo. On est né quelque part. Ça, c'est pas Jean-Jacques Goldman qui l'a.
On est né quelque part.
On en revient toujours à Jean-Jacques Goldman, en fait. Hein, tous les chemins mènent à lui.
Et ce monologue, alors, il est joué sur scène par Johanna Nizar. Il fallait une femme pour interpréter le rôle d'Abraham.
Oui, en fait, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait pousser à bout cette interrogation identitaire et que cet homme, Abraham Ajar, devait être joué par une femme. Et j'ai pensé assez vite à Johanna Nizar, qui est extraordinaire, bluffante, qui est capable de se métamorphoser et d'incarner à la fois le viril et le féminin, le masculin et le féminin dans son jeu. Elle est absolument époustouflante.
Delphine Arvillard, tout à l'heure vous parliez des réseaux sociaux avec les identités qui se clonent. Selon vous, quel regard aurait Romain Gary sur notre époque ?
Je crois qu'il serait sans doute très critique, abrasif, il aurait sans doute une
affligé.
Je ne sais pas s'il serait affligé parce que je crois qu'il se méfiait de discours, on va dire, qu'il aurait identifié ou qu'on identifierait aujourd'hui comme un peu entre guillemets réac. Donc il aurait invité à faire avec, mais il les aurait sans doute pervertis un peu, détournés. Il aurait fait un roman où sous son nom ou sous un autre, il est à la fois grand consommateur de réseaux mais grand critique.
Stéphanie Loire.
Moi, j'aimerais revenir un petit peu à la musique, faire un lien avec votre livre, Delphine Arvillard, parce qu'avec ce livre, vous suggérez qu'on est bien souvent les enfants des livres qu'on a lus, des histoires qu'on nous a racontées, mais j'ai aussi beaucoup l'impression des chanteurs que l'on a écoutés. Dans votre vie, Jean-Jacques Goldman, c'est une part du puzzle importante. Non, les chanteurs qu'on écoute nous constituent, les chansons.
Moi, j'en ai la conviction qu'en fait, il y a des bandes-sons dans nos vies, qu'on peut prendre ça à la légère, on peut considérer que c'est de la culture populaire, mais en fait, moi, je me rends compte qu'il y a tout plein de moments dans ma vie où j'étais en train de me construire ou au contraire à deux doigts de m'effondrer et qu'il y a des gens qui m'ont relevé par une petite phrase, un refrain, une mélodie. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'incroyablement puissant dans les musiques de variété de nos vies qui sont tout sauf de la légèreté, de la superficie, qui viennent raconter souvent la profondeur de notre époque.
Voilà, on terminera là-dessus. Merci.
On finit avec Jean-Jacques.
On finit toujours avec Jean-Jacques. On revient
tout comment c'est tout fini avec lui.
Merci beaucoup Delphine Orviller d'être venue nous voir ce matin. Je rappelle le titre de ce monologue contre l'identité. Il n'y a pas de hasard. C'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe de Culture Média. Demain à 9h, vous retrouverez donc Philippe Vandel qui sera de retour et en pleine forme et il s'intéressera pour fêter ça à la Coupe du Monde féminine de rugby en compagnie du journaliste sportif François Trillot, de la consultante ancienne joueuse et championne de France 2016 Laura Di Manzo. Et puis l'humoriste Christelle Chollet sera également dans ce studio pour son One Woman Show musical. Ça s'appelle Reconditionné. Juste après le flash, vous retrouverez Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Bonjour mesdames.
Bonjour.
C'est
beau.
Quel est le programme ?
On va parler d'un sujet passionnant qui nous anime tous. Pourquoi aime-t-on toujours autant mentir ? Ça démarre bien souvent dès la petite enfance et on continue. Alors évidemment, quand c'est pathologique, c'est grave, mais au fond...
Il y a des gens plus doués que d'autres, hein, Julia, vous trouvez pas ?
Moi, j'adore mentir, c'est je trouve que ça facilite la vie et je vous le conseille à tous, à petite dose.
C'est le conseil du jour.
Voilà. Et puis dans le quart d'heure des bienfaiteurs, on va parler un petit peu déco, on va vous initier au style british dans vos intérieurs, c'est très élégant, je suis sûre que ça va vous plaire, Thomas. Et puis il y aura également une enquête sur les produits sur la table du petit déjeuner, c'est en partenariat avec 60 millions de consommateurs. Et ça devrait vous intéresser également.
C'est tout de suite sur Europe 1. Bien fait pour vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.